RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui aux États-Unis où des centaines de communautés religieuses sont engagées pour protéger les migrants sans papier menacés d'expulsion. Menace de plus en plus pesante avec l'élection de Donald Trump. Ils sont des millions de Mexicains latino-américains installés dans le pays et les opérations de la police fédérale, de l'immigration et des douanes mènent à de véritables drames humains avec des parents sans papier expulsés alors que leurs enfants nés américains restent seuls aux États-Unis. Alors, des églises se sont transformées en sanctuaires, reprenant une tradition antique qui considérait le sol des temples religieux comme des espaces sacrés où les personnes pouvaient se réfugier en toute sécurité. Le mouvement a commencé dans les années 80 en Arizona, dans la ville de Tucson. Alors que cet état frontière reçoit une immigration forte depuis la frontière mexicaine, grand reportage d'Éric Sanson à Phoenix.
Au pied d'une colline pelée, écrasée par une chaleur de près de 50 degrés, Sixto Paz s'affaire dans un jardin rocailleux où les scorpions et les serpents à sonnette ne sont pas rares. Dans ce quartier nord de la ville de Phoenix, le regard porte loin, mais depuis des mois, l'univers de Sixto ne dépasse pas les limites du parking de cette congrégation de quelques 400 fidèles de l'Église unie du Christ. Hébergé dans cette église sanctuaire, l'une des trois de Phoenix, Sixto ne peut pas en quitter les limites, sauf à prendre le risque d'être arrêté et déporté par ICE, la police de l'immigration et des douanes. Il est aujourd'hui apaisé, mais l'amertume n'est jamais bien loin.
Je sens qu'on me rejette comme si je ne valais rien, et sans raison. Je paie le crédit de ma maison, j'avais un bon travail et je n'ai jamais demandé une aide sociale. Je payais mes impôts et je respectais la loi.
Sixto est arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans de la province mexicaine de Sonora, où il ne voulait pas terminer agriculteur comme son père. Il n'a jamais eu l'opportunité de légaliser sa situation, comme des milliers d'autres, voire des millions, aux États-Unis. Ayant encore ses parents, trois sœurs et deux frères au Mexique, il pourrait éventuellement s'y installer, mais pour lui, ce serait comme repartir de zéro. Sa décision de demander sanctuaire est sa dernière chance pour essayer de régler sa situation légale sans s'éloigner de sa famille.
Les premiers mois ont été les plus difficiles. Mon père est tombé malade un mois, ma mère aussi à cause de ma décision de me réfugier dans un sanctuaire. C'est curieux comme tu te sens. Ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs. Il y a des gens qui disent, mais tu es bien installé, tu n'as pas besoin de travailler, de te préoccuper de rien, comme si c'était si simple. Seules les personnes qui vivent dans leur corps les conséquences de l'injustice dans ce pays peuvent comprendre comment je me sens.
Un homme pourtant sait exactement comment Sixto se sent. Cet homme, c'est Ismaël Delgado qui a lui aussi demandé sanctuaire. Depuis des mois qui se prolongent, les vastes locaux de l'église de Shadow Rock sont devenus son nouveau foyer. Ayant abandonné le Mexique à 21 ans pour fuir le chômage et la pauvreté, ce cuisinier a pu faire venir sa femme pour y commencer une vie qu'il espérait normale.
On a vécu le rêve américain comme toutes les personnes qui travaillent dur. Avec ma femme, on a acheté la maison, puis les voitures, la mienne, de ma femme et de ma fille. Une famille normale avec le rêve d'aller de l'avant dans ce pays.
Tout comme sa femme, Ismaël n'a jamais pu régler sa situation migratoire. Mais une erreur a changé sa vie. Arrêté pour conduite en état d'ivresse, il est sous le coup d'un ordre d'expulsion depuis septembre 2015. La police a donc la faculté de le chercher chez lui, à son travail ou lorsqu'il amène ses enfants à l'école. Une épée de Damoclès permanente. Pendant que son avocat cherche une solution légale lui permettant de rester aux États-Unis, Ismaël a décidé de demander sanctuaire plutôt que de refaire sa vie seul au Mexique.
C'est beaucoup mieux, je peux au moins voir ma famille et savoir ce qui se passe chez moi. Ils viennent quand ils veulent, ma femme vient tout le temps, mes enfants un peu moins, mais ils viennent plusieurs fois par semaine.
Avec le temps, Ismaël et Sixto ont pris leur marque et développé une nouvelle routine de vie.
Une journée normale ici dans le sanctuaire. Se lever, préparer le petit déjeuner. Je cours beaucoup, j'essaie d'aider et d'étudier la parole du Seigneur. Cela m'a donné la paix et beaucoup de satisfaction car avant je n'y connaissais rien.
Ken Eiselman est le révérend de Shadow Rock depuis 10 ans. Il a été attiré par une congrégation très portée sur la justice sociale et le progrès de la communauté locale et qui a approuvé l'idée de transformer Shadow Rock en église sanctuaire.
De nombreux membres de notre congrégation ont accepté l'idée de sanctuaire sans hésiter. D'autres ont eu des réserves car ils comprenaient que c'était illégal ou que nous étions à la limite de la violation de la loi. Donc il y a eu quelques hésitations, mais comme ces trois dernières années nous avons eu quatre invités au sanctuaire, les membres de notre congrégation ont pu les connaître ainsi que leurs familles et ils voient que notre position est juste.
Recevoir des personnes sans papier pendant des mois, voire des années, n'est pas simple. Toute église volontaire doit avoir des locaux suffisamment vastes pour que les migrants sans papier puissent vivre décemment, avec une salle de bain et une cuisine à leur disposition. Tout cela coûte de l'argent, mais enrichit spirituellement la communauté, selon Ken Eiselman.
Avoir quelqu'un en sanctuaire permet de connaître un véritable être humain, d'écouter leur histoire, de savoir pourquoi ils sont venus dans ce pays, quels sont leurs rêves. Ils veulent une vie meilleure pour eux et leur famille. Ils tombent amoureux, ils ont des enfants, ils sont comme nous, ce sont nos voisins et il est difficile d'écarter ses voisins quand on les connaît. La Bible est très claire. La façon dont nous traitons le voyageur, l'étranger, le réfugié parmi nous, dit tout de notre désir de respecter la volonté de Dieu et ses enseignements. C'est donc beaucoup plus qu'une simple discussion politique.
Le mouvement sanctuaire est comme une fusée à plusieurs étages. Certains États peuvent se déclarer sanctuaires ou des grandes villes. Il suffit pour cela que le gouverneur ou le maire refuse publiquement de collaborer avec les autorités migratoires. Le président Donald Trump a d'ailleurs menacé de couper les fonds fédéraux aux villes se déclarant sanctuaires. Travaillant à une échelle beaucoup plus locale, des églises, synagogues et mosquées ont également décidé de se déclarer sanctuaires. Elles sont environ 800 aux États-Unis, dans la lignée d'une longue tradition, selon le révérend James Pennington, de la première congrégation de l'Église unie du Christ, autre église sanctuaire au centre-ville de Phoenix.
Il y a une tradition d'église sanctuaire qui remonte à l'émancipation des esclaves. L'Église unie du Christ a été très active dans l'organisation de la fameuse autoroute souterraine des esclaves pour les éloigner des États esclavagistes, donc cela remonte à un bon moment. En général, les communautés chrétiennes ont une longue tradition qui consiste à offrir un sanctuaire.
Plus récemment, c'est en Arizona et dans la ville de Tucson que cette tradition d'asile a repris. C'était à l'époque du président Ronald Reagan, se souvient l'activiste en faveur des droits de l'homme, Laura Ilardo.
Le mouvement sanctuaire que l'on voit aujourd'hui dans les églises est une suite de mouvements sanctuaires des années 80-90. À l'époque, ce mouvement avait débuté en Arizona suite à l'arrivée aux États-Unis de très nombreux centra-américains fuyant les guerres civiles au Salvador ou au Guatemala. Des églises leur avaient accordé un sanctuaire pendant qu'ils demandaient l'asile politique.
Le nouveau mouvement des églises sanctuaires protège quant à lui un public différent.
C'est une nouvelle version des églises sanctuaires. La différence avec l'original, c'est que les migrants ne viennent pas du Mexique ou d'Amérique centrale. Ils sont déjà chez nous et vivent dans notre communauté.
Faire le choix de protéger les sans-papiers n'est ni neutre ni facile. L'Arizona est encore un État républicain, sensible aux thèses anti-immigrants de Donald Trump. À Phoenix, le shérif Joe Arpaio se vantait d'être implacable contre les sans-papiers. Condamné pour avoir mené des opérations illégales, Arpaio vient d'être gracié par le président Trump. Même s'il a perdu les dernières élections comme shérif, défendre les sans-papiers en Arizona n'est pas vraiment populaire, rappelle la journaliste d'origine mexicaine Elvia Díaz.
En Arizona, comme dans le reste du pays, il y a toute une partie de la population qui n'aime pas les sans-papiers et le fait savoir de manière très claire. Le shérif Arpaio est l'un d'entre eux. Il a passé son temps à rendre la vie impossible aux immigrés et à tout faire pour les expulser, à organiser des descentes de police sur leur lieu de travail. Arpaio est resté shérif 24 ans. Il a été maintenu au pouvoir parce que les gens qui votaient pour lui pensait comme lui.
Pensaba exactamente como él.
En Arizona, 4 églises se sont déclarées sanctuaires, une à Tucson et 3 à Phoenix. Toutes le font publiquement pour ne pas être accusées de cacher des personnes recherchées par la justice, un risque légal assumé par les congrégations qui ont décidé d'aider les sans-abri de manière clandestine et dont par définition on ne connaît pas vraiment le nombre. À Tempe, au sud de Phoenix, Eric Liederman est depuis 7 ans le révérend d'une communauté presbytérienne dirigée par un conseil d'anciens. Une communauté, elle aussi, très portée sur l'action sociale.
L'une des raisons qui m'ont poussé à venir travailler dans cette église était l'intérêt de la communauté pour la justice et l'action sociale. C'est une partie importante de comment ils expriment leur foi. Beaucoup travaillent pour éviter les morts de migrants dans le désert au travers de l'association Frontières Humaines. D'autres s'intéressent au commerce équitable ou à la situation des sans-abri. Cette église est vraiment active dans sa communauté.
Malgré la fibre sociale et communautaire bien affirmée de cette congrégation, plutôt libérale et démocrate, le processus de se transformer en sanctuaire n'a pas été accepté par tous.
Ils m'ont fait savoir qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec cette idée de sanctuaire. Leur principal argument est que les migrants violent la loi en franchissant la frontière illégalement, que ce n'est pas moral et qu'il faut arrêter le mouvement, point final. Quand je demande comment on fait, ils disent « on ne sait pas, mais il faut l'arrêter et appuyer les efforts du gouvernement ». C'est généralement quand je leur demande si Jésus soutenait les autorités de l'époque. Oui, en fait non, au contraire. Jésus a toujours prêché la bienvenue radicale, l'hospitalité radicale, l'amour radical, et c'est le chemin du Christ, le chemin que nous devons suivre.
Si certains membres de la congrégation se sont finalement retirés, l'immense majorité a accepté d'offrir un sanctuaire à Luis López Sacal, aujourd'hui âgé de 27 ans. Luis est arrivé à Phoenix après avoir été menacé par les Maras, des gangs de rue extrêmement violents. Il n'avait que 17 ans. Luis a quitté son Guatemala natal pour aller à Phoenix retrouver son frère. Arrêté par un policier pour une erreur de conduite, Luis ne peut pas retourner au Guatemala où sa vie est menacée.
Je me suis battu pour avoir l'asile politique, mais les autorités ont refusé. J'étais sous la menace d'être déporté et en décembre 2014, j'ai pris la décision d'aller au sanctuaire car je ne voulais pas laisser ma femme et mes enfants tout seuls. En plus, retourner au Guatemala est trop dangereux, j'ai peur d'y aller.
De par sa gentillesse et son désir d'aider la communauté, Luis a rapidement été adopté par les membres de la congrégation comme d'un habit.
Il y a eu un peu de résistance, mais pour vous donner un exemple de ce que la décision d'être un sanctuaire peut apporter de positif au niveau spirituel à une communauté, quand les gens qui s'opposaient ont pris le temps de connaître Luis, c'est devenu évident pour eux. Ils nous ont dit que sa présence était justifiée. Ils ont commencé à l'aimer parce que c'est un homme bon, qui s'est sacrifié pour sa famille. Ils ont appris à l'apprécier et à l'aimer comme un être humain.
Luis est rapidement devenu un ami de la communauté qui lui confiera les clés des locaux où il était logé. Pour les remercier, Luis s'est transformé en concierge et réparateur, les accompagnant à la messe assez régulièrement.
Je passais tout mon temps dans les locaux de l'église. Tu t'ennuies quand tu es seul, mais le sacrifice valait la peine pour être avec la famille. Au début, j'avais peur que les services de l'immigration viennent me chercher, mais avec le temps qui passait, j'ai pris confiance.
Luis ne passera finalement que 100 jours dans les locaux du sanctuaire. Un accord verbal, pour le moment respecté par la police migratoire, lui a permis de retourner chez lui et de reprendre sa vie. Il n'a laissé que de bons souvenirs dans une congrégation qui se demande si elle est prête à continuer d'offrir sanctuaire à de nouveaux sans-papiers. Dan Abit.
Le plus grand défi pour une église cherchant à être sanctuaire serait d'accepter de protéger des gens et de découvrir que ces personnes sont méchantes, qu'elles ne sont pas aussi faciles à vivre qu'avec Luis, qu'elles ne sont pas aussi serviables que Luis ou disposées à s'intégrer harmonieusement dans notre communauté. Accepter de protéger des gens comme ça demanderait une grosse dose de grâce religieuse. Ce serait vraiment dur et un vrai test pour la communauté.
Demander sanctuaire est également risqué pour les sans-papiers. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge et le caractère sacré d'un édifice religieux n'est plus suffisant pour empêcher le passage de la police fédérale de l'immigration et des douanes si elle a un mandat d'arrêt. Une réalité que le révérend James Pennington est prêt à accepter.
Il y a des risques. Moi ou nos dirigeants pourrions être arrêtés pour nous opposer à une arrestation. Cela dépend de comment l'administration actuelle va interpréter la loi. Avant, la police n'arrêtait personne dans des lieux dits sensibles, comme les hôpitaux ou les églises, mais on ne sait pas si cette règle est toujours valable.
Ces derniers mois, des sans-papiers ont en effet été arrêtés dans des lieux où, avant, la police n'entrait pas. Pourrait-elle un jour pénétrer dans des églises ? Le pas pour l'heure n'a pas été franchi. Pour le moment hypothétique, cette menace n'a pas été suffisante pour que la première congrégation de l'Église unie du Christ renonce à ses projets, selon son révérend James Pennington.
Il y a 2 ans et demi, quand je suis arrivé, 3 ans maintenant, nous avons décidé de ne pas offrir de sanctuaire car nous n'avions pas de douche. Nous avons en échange ouvert une clinique légale pour aider les migrants dans leur démarche afin d'obtenir leurs papiers. Récemment, nous avons décidé d'annoncer publiquement notre intention de nous transformer en église sanctuaire, en particulier pour marquer le coup après l'élection de Trump. Puis nous avons commencé l'installation de douches car nous pensions recevoir une femme qui nous avait demandé le sanctuaire, mais dont la situation s'est finalement arrangée et qui n'est donc pas venue.
Ayant décidé d'offrir sanctuaire, la congrégation de James Pennington l'a fait savoir haut et fort.
Nous avons fait une conférence de presse et pour marquer le coup et parce que c'était la chose correcte à faire. Dire ça suffit, d'autant qu'est en jeu la vie de personnes séparées de leur famille. Nous souhaitons faire partie du mouvement sanctuaire et inviter d'autres congrégations à nous imiter. Nous voulons également être clairs avec le service d'immigration et de contrôle des douanes, travailler avec eux pour obtenir les sauf-conduits des personnes qui souhaitent rester ici et ne pas être accusés de violer la loi en cachant les sans-papiers pour qui sait combien de temps.
Silence. For who knows how long. Avec tout de même quelques précautions minimales.
On fait toujours attention à ce qu'il n'ait pas de casier judiciaire, éventuellement des amendes et même une conduite en état d'ivresse, mais rien de plus. Il doit être clair que nous protégeons des gens qui ne sont pas dangereux.
Trois églises à Phoenix, une à Tucson, sans doute quelques autres agissant clandestinement. Clairement, les églises sanctuaires ne sont pas suffisamment nombreuses pour protéger tous les sans-papiers désespérés. Pour l'activiste Laura Ilardo, il ne faut pas cependant leur demander plus qu'elles ne peuvent donner.
La politique migratoire ne change pas à cause des églises sanctuaires. C'est pourquoi ce n'est probablement pas la meilleure option. Avec le sanctuaire, on réagit à une politique en place, au chaos migratoire en place aux États-Unis. Ce qui doit changer, c'est la politique officielle. Ce qui doit changer, c'est que ICE, la police migratoire, n'ait plus le droit d'arrêter et de déporter des gens n'ayant pas de casier judiciaire ou commis de crime.
Un diagnostic et un objectif partagé par le révérend Ken Eisenman de l'église de Shadow Rock.
Notre objectif est d'obtenir une réforme migratoire globale, mais en attendant, nous allons faire ce que nous pouvons pour maintenir des familles ensemble et sauver des vies. Nous ne pouvons sauver tout le monde, mais nous pouvons au moins donner une réponse conforme à notre foi pour aider ceux qui sont à notre porte.
Grand reportage à Phoenix, Eric Sanson, réalisation Eva Moginski.